Bonjour à tous, Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui crée un lien entre les générations et qui nous accompagne dans les différentes étapes de notre vie. Aujourd'hui, je reçois deux accompagnateurs. Le premier qui nous aide dans les différents pas que nous faisons dans notre vie pour devenir le meilleur de soi et qui est l'auteur d'un livre dont le sous-titre est « Le livre que vous auriez dû recevoir à la naissance ». Nous recevons ensuite une femme qui nous accompagne lors du dernier pas, donc à l'autre bout de notre vie. Caroline Cloutier viendra nous parler de, en fait, des beaux hommages funéraires qu'on voudrait être fier d'avoir faits. Et pour ça, il faut avoir mené une bonne et belle vie. Et c'est ce dont va nous parler Laurent Debacker, qui est l'auteur de « Avance ». Avance avec 3 points d'exclamation. Alors, c'est vous dire à quel point il est motivé à nous aider à avancer et faire le meilleur de notre vie. Il est coach de vie et a également exercé le métier que je découvre avec passion, soit celui d'animateur de radio pendant 15 ans à Radio France. Il nous donnera des conseils pour avoir de quoi raconter, pour que nos proches aient de quoi raconter lors du moment de faire un dernier hommage à notre vie. Nous allons discuter en deuxième partie avec Caroline Cloutier, qui est thanatologue et directrice marketing et communication à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Elle sera nous parler de l'évolution des au revoir. Donc du temps, des funérailles d'antan, comme disait Brassens, aux au revoir d'aujourd'hui en temps de COVID. Comment dit-on nos derniers adieux? Parlant de disparus, nous ouvrons cette émission, 42e émission d'Au fil du temps, avec un disparu, Patrick Juvet, qu'on a connu entre autres avec la chanson « Où sont les femmes ?» et la musique qu'on choisit de vous offrir. C'est aussi une belle musique qui est entraînante pour les auditeurs d'Au fil du temps, la Musica.
La pluie sur les toits, c'est la musica. Le son de ta voix, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Le soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. Un signe de toi, la musica, tu reviens vers moi, c'est la musica. La musica, c'est le vent et c'est l'orage en été. La musica, c'est un simple bruit. Soleil d'un nouveau jour, et c'est ta voix qui chante à mon oreille. Dès que je m'éveille, des mots, des merveilles sur un lit d'amour. La musica, la 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 la. La musica, la 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 la
C'était La Musica de feu Patrick Juvet. Je reçois maintenant en studio un homme très vivant. C'est Laurent Debacker qui est coach de vie, thérapeute PNL, hypnothérapeute et auteur de Avance. Avance avec 3 points d'exclamation et son livre est sous-titré « Le livre que vous auriez dû recevoir à la naissance ». Bonjour Laurent.
Bonjour Chantal, merci de m'accueillir.
J'imagine que c'est probablement le livre que vous-même vous auriez aimé lire quand vous étiez jeune.
C'est ça, c'est pour ça que j'ai tenu à ce sous-titre, parce que si moi on m'avait expliqué jeune ce qu'il y a dans ce livre, ça m'aurait évité énormément de déboires, de recherches, d'années parfois difficiles, et sans doute que j'aurais construit ma vie avec plus de facilité, avec plus de rapidité, sans tomber dans certains pièges de l'existence.
Vous avez été animateur radio pendant très longtemps, donc vous étiez vraiment une présence très active et vous avez voulu maintenant être encore plus présent auprès des gens. C'est quoi qui a motivé cette démarche-là d'aller vraiment dans l'aide directe?
En fait, c'est venu à une époque où, je ne vais pas dire que j'étais en burn-out, mais je travaillais énormément. Je me levais à 3h30 tous les matins, je rentrais chez moi à 9h le soir. Je faisais les matinales, après je travaillais pour une autre radio. Et puis est arrivé un moment où j'ai voulu faire une introspection, une recherche. Mm-hmm. J'ai commencé par faire une thérapie et puis j'ai ensuite voulu apprendre. Mm-hmm. Apprendre à faire de la thérapie. Et j'ai commencé par la programmation neurolinguistique, la PNL. C'est comme ça que c'est né. Et en fait, je faisais de la radio le matin, l'après-midi, soit j'apprenais, soit je recevais mes patients,
mes élèves,
clients,
vous préférez
élèves.
Dire élèves.
C'est ça, oui. Il y a pas de terme parce que patient, j'ai pas le droit parce que je ne suis pas médecin. Mm-hmm. Client, j'aime pas parce que ça fait mercantile.
Ouais.
Il y a pas de mot qui a été créé pour l'instant pour les patients clients. Des gens qui ne sont pas médecins. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est créé. Une recherche personnelle à la base qui s'est développée par cette volonté de vouloir aider les autres. Et puis c'est passionnant, l'âme humaine, c'est une grande aventure. Mmh. Je faisais un métier en radio d'aventure où j'allais à la découverte des gens, mais j'ai eu envie de les découvrir aussi d'une autre manière. Et puis sans doute aussi qu'à travers eux, eh bien, je me découvrais moi.
Absolument. C'est souvent de très belles rencontres. Et en fait, j'ai lu aussi dans votre livre que c'est une rencontre que vous avez fait un monsieur à l'épicerie qui, vous l'avez regardé, vous questionniez un peu sur toute la lourdeur qu'il y avait chez cette personne-là.
Je rentrais de vacances, j'étais de bonne humeur, j'étais bronzé, j'étais allé passer 2 semaines en Méditerranée, je rentre, il n'y avait rien dans le frigo, je vais à l'épicerie et là, à la caisse, eh bien, je vois ce monsieur qui n'était pas un quêteux, qui n'était pas un clochard, mais on voyait vraiment qu'il était dans la soixantaine et qu'il portait tout le poids de sa vie sur ses épaules, il était tordu, il comptait ses petites pièces comme ça, comme un malheureux. Et là, je me suis littéralement énervé.
Ça vous est entré,
avec compassion,
là, ça,
avec compassion, bien sûr, mais je me suis énervé. Et je me suis dit, mais bon sang, j'en ai marre de voir des gens qui se laissent balloter par la vie au point d'en arriver à ça, à avoir tout le poids d'une vie sur les épaules. Il y a des moyens très simples pour remédier à tout ça, pour se construire une vie qui va nous convenir, une vie qui sera faite d'abondance dans tous les domaines de l'existence, dans laquelle on sera bien, dans laquelle on sera épanoui, et surtout une vie dans laquelle on aura le sentiment vraiment d'être à sa place. Mm-hmm. Une vie au terme de laquelle on pourra dire vraiment, j'en ai bien profité. Maintenant, je peux partir, j'ai fait plein d'expériences, je suis content de ma vie, je peux partir sans regret.
C'est un peu, on voulait vous avoir tout juste avant d'avoir Caroline Cloutier qui va nous parler justement des funérailles, des hommages funéraires, et c'est de dire de bâtir de notre vivant ce legs qu'on va laisser, un legs spirituel aux gens qui nous ont accompagnés. Et vous avez bien sûr abordé la programmation neurolinguistique, qui est une modélisation là, de pratiques gagnantes, de gens gagnants. Et je veux vous entendre un petit peu sur comment on fait pour reconnaître ces programmations-là qui souvent nous pilotent sans qu'on s'en rende compte.
C'est très simple. Quand on est sur le point d'avoir une pensée ou bien de faire un projet, il suffit de se demander, est-ce que je le fais par amour ou bien est-ce que je le fais par peur?
Oui.
Je viens de terminer l'écriture de mon prochain livre qui va porter sur les peurs, justement, et je débute le livre avec ça. On ne fait les choses que par amour ou par peur. La haine n'est pas l'opposé de l'amour. C'est pas vrai. C'est la peur. Posez-vous la question de savoir est-ce que je, en ce moment, ce dont j'ai envie, ce que je suis en train de faire, est-ce que je le fais par amour de moi en premier lieu, par amour de la vie, par amour de ce que j'ai envie de produire, du but, des objectifs que j'ai envie d'atteindre, ou est-ce que je le fais par peur? Peur de la perception que les gens auront de moi, peur de ne pas laisser un héritage, je parle d'un héritage intellectuel, spirituel, peur de ne pas obtenir la reconnaissance de ses proches. Peur de ne pas pouvoir payer ses dettes, peur de... etc., etc. On ne fait les choses que par amour ou par peur. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc, si la réponse est par peur, alors c'est qu'on est dans les 8% du mental. Ce mental dans lequel règnent justement ces programmations, les peurs, les limitations, les restrictions, et qui nous emprisonnent et qui empêchent tout le restant de notre être, les 92%.
Le moi supérieur.
Le moi supérieur, on l'appelle comme on veut, l'âme, le divin en nous, qui lui, n'est venu que pour expérimenter des choses heureuses dans cette existence. Et à partir du moment où nous nous défaisons de ces programmations erronées qui règnent en maître dans notre mental et que nous les remplaçons par des programmations positives, alors les choses changent. Parce que vous aurez beau vouloir ceci ou cela de très bien, si vous n'êtes pas programmé pour, il n'y a rien à faire, vous ne les aurez jamais. Vous ne pouvez pas demander à un logiciel de photos de vous faire du traitement de texte. Il le pourrait, mais il faudrait le programmer pour ça. Dans notre vie, c'est exactement la même chose. Si vous avez des programmations délétères, des programmations erronées qui vous empêchent, à cause de l'enfance, d'être heureux en amour, d'avoir suffisamment d'argent pour vivre et pour faire ce dont vous avez envie, etc., etc., eh bien, vous n'y parviendrez pas. Et c'est pour ça que, d'un côté, il y a le livre, qui est un livre de coaching. Le livre, dans un premier temps, on met tout à plat. Voilà, on démonte tout et ensuite on remonte pièce par pièce. C'est ce que je fais en séance de coaching. Et puis, il y a l'enregistrement qui est maintenant en ligne. Dans la première édition de Avance, c'était sur CD, mais maintenant c'est en ligne, puisque de moins en moins de personnes ont des lecteurs CD. Maintenant, c'est en ligne. Et là, c'est tout un programme de séances de PNL, de MDR et d'hypnothérapie. Et j'explique bien dans le livre qu'il est absolument fondamental de travailler avec les deux en même temps. Parce que si vous vous servez du livre et que vous reconstruisez une nouvelle existence, mais en gardant les programmations erronées, ce que vous êtes en train de construire de nouveau sera condamné à vous mener au même résultat qu'auparavant et dont vous ne voulez plus. Et d'un autre côté, si vous utilisez l'enregistrement, uniquement l'enregistrement pour vous défaire de ces programmations erronées, mais que vous n'en faites rien, ça ne sert à rien. C'est comme si vous aviez une voiture de course et que vous rouliez à 10 km à l'heure avec.
Donc on ne met pas la bonne essence.
Absolument. C'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec les deux, le livre et l'enregistrement en ligne, pour pouvoir construire en étant débarrassé des programmations erronées qu'on remplace par des programmations positives.
Il y a une de ces peurs-là dont vous parlez, et j'en parle tout particulièrement parce qu'on explore le vieillissement ici au fil du temps, c'est la peur d'être trop vieux. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui disent « je suis trop vieux pour faire ceci ou cela »
C'est vrai, en partie.
Si on veut être astronaute, peut-être, oui.
maintenant, je vous dirais que notre moi supérieur nous pousse toujours vers ce qui est bon pour nous, vers ce que nous sommes capables de réaliser. Je ne pense pas que si vous avez 70 ans, votre moi supérieur vous pousse à être astronaute.
Il y a une sagesse quand même qui est un peu...
vous savez, on n'a pas donné l'idée de la bombe atomique aux hommes des cavernes, parce qu'ils n'avaient pas les facultés pour, on est d'accord. Pour nous, c'est la même chose. Notre moi supérieur ne nous pousse pas à accomplir certaines choses qui ne nous conviennent pas. En revanche, il n'arrête pas de nous parler. Le problème, c'est qu'il est complètement occulté, ce moi supérieur, par les 8%. De notre mental.
De ce mental
et ces programmations tenace. Que nous acquérons entre 0 et 14 ans. Et pour coller au thème de l'émission, eh bien, toutes ces programmations, elles sont le fruit de tout ce que nous avons pu vivre, entendre, observer durant les 14 premières années de notre existence. Et ce programme, quand on atteint vers 12-14 ans, à l'adolescence, hein, ça dépend des personnes, c'est pour ça que des fois je parle de 12, des fois je parle de 14 années dans le livre, mais c'est à partir de l'adolescence. Eh bien, ces programmations, quand on atteint cet âge-là, c'est comme si on appuyait sur la touche Enter du clavier et que ce programme commence à rouler avec les bonnes, mais aussi avec les mauvaises programmations.
Je vous propose, Laurent, qu'on en parle justement parce que c'est un chapitre que vous avez ajouté dans la deuxième édition de ce livre, qui est apparu il y a 5 ans. Mais d'abord, je vous propose une petite pièce musicale. J'ai lu dans le livre que vous aimez bien Joe Dassin. Alors, pour parler du titre de votre livre, j'imagine vous devinez le titre. Ça m'avance à quoi?
Oui, bon oui. Choix, excellent choix.
Alors, on écoute Ça m'avance à quoi et on revient tout de suite après.
Ça m'avance à quoi? Dis, ça m'avance. À quoi si j'en rêve, oh oh oh, car j'en crève, oh oh oh, de rester sans toi. Passer d'une pièce à l'autre, ça m'avance à quoi? Dis, ça m'avance à quoi? Tant de place, oh oh, tant d'espace, oh oh, tout est vide sans toi. C'est mes goûts que j'écrase, ça m'avance à quoi? Ça m'avance à quoi? Ça m'avance à quoi? Dis, ça m'avance à quoi?
C'était « Ça m'avance à quoi » de Joe Dassin. Nous sommes de retour avec Laurent Debacker pour son livre « Avance » avec 3 points d'exclamation. Et c'est une nouvelle édition. L'édition datait d'il y a 5 ans. Et vous avez ajouté un grand chapitre sur les jeunes.
En fait, mon éditeur m'a proposé en novembre 2019 eh bien, de sortir dans un nouveau format et sans céder mes trois derniers livres, c'est-à-dire « Avance ». Et puis mes 2 livres sur Ho Oponopono, Ho Oponopono, Le pouvoir en vous et Ho Oponopono, Miracle quotidien, et notamment pour célébrer les 40 000 exemplaires vendus au Québec de Ho Oponopono, Le pouvoir en vous. Merci beaucoup. Et je leur ai dit, voilà, j'ai rien à rajouter dans les livres de Ho Oponopono. Par contre, Avance, oui, parce que finalement, quand on regarde bien, ça fait 6 ans que je l'ai écrit. Et j'ai plein de choses.
Le monde a changé, les réseaux sociaux, les jeux
Exactement,
vidéo.
Exactement, j'ai pu observer des nouvelles choses, j'ai mené de de nouvelles expériences, j'ai rencontré de nouvelles personnes et, et j'ai plein de choses à dire. Et c'est comme ça qu'en fait, il y a un an, bah, j'ai passé tout le premier confinement, même beaucoup plus que ça, à écrire cette nouvelle version, c'est-à-dire à compléter le texte qui était déjà là et rajouter des nouveaux chapitres. En tout, ça fait 46% de
matériel supplémentaire. Oui.
Et puis en plus, on a fait une version couleur. On a rajouté des photos, des illustrations. Là, il y a plus d'une centaine de photos. La couverture est rigide, hein, comme les dictionnaires. Donc c'est parce que avant, c'est devenu un ouvrage de référence. Il y a même sur les réseaux sociaux des groupes qui se sont formés de gens qui travaillent avec Avance et qui comparent leurs résultats, qui se donnent des conseils et tout ça. Jamais j'interviens là-dedans, mais je sais que ça existe. Et puis, c'est formidable.
Et peut-être avant de parler de ce chapitre-là sur les jeunes, vous avez parlé d'Oponopono, qui est une méthode de guérison que je connais, mais peut-être pour le bénéfice de nos auditeurs, juste nous expliquer ce dont il s'agit.
Oponopono, c'est une méthode énergétique thérapeutique venue des îles polynésiennes et qui permet, dans sa version simplifiée, celle qui a été transmise en 1976 par Borna Simeona, eh bien de... Par la répétition du mantra, c'est aussi simple que ça. C'est un petit peu plus compliqué, mais désolé, pardon, merci, je t'aime. Voilà, c'est la répétition de ce mantra, mais encore une fois, c'est un travail énergétique. Donc si vous dites désolé, pardon, merci, je t'aime, sans penser aux énergies qui sont associées, hein, les énergies d'amour, de repentir, de pardon, qui sont associées, ça ne sert à rien. Mais grosso modo, c'est ça. Voilà, c'est simple et ça permet justement de nettoyer toutes ces mémoires erronées qui sont dans notre mental et qui nous empêchent d'accéder à la vie que nous désirons. C'est ça, Ho'oponopono. Mmh. C'est très simple et ça, vraiment, ça crée des miracles dans l'existence des gens. Et ce qui est incroyable, c'est que parfois, c'est immédiat. Quand je dis immédiat, ça peut être immédiat. Dans les minutes qui suivent, on a un appel qui nous permet de débloquer une situation alors que ça faisait des mois et des mois. C'est ça. Ça faisait des mois et des mois qu'on cherchait des solutions. On fait le nettoyage avec Ho'oponopono et dans les 10 minutes qui suivent, on reçoit un appel qui nous dit « Hey, ça y est, j'ai ta solution ». Et ça, c'est extraordinaire.
On disait au départ que c'est le livre que vous auriez aimé lire parce que ça vous aurait empêché certaines bévues étant jeune, donc vous avez pensé aux jeunes et vous avez souhaité ajouter tout un chapitre pour eux. Étant moi-même mère d'un garçon de 27 ans et un de 17 ans, je suis curieuse d'entendre les conseils que vous donnez aux jeunes de ces âges.
Alors, je dirais que ce 14e chapitre, Ho'oponopono, Avance pour les plus jeunes, il ne s'adresse pas aux plus jeunes. Il s'adresse aux parents des plus jeunes, mais il s'adresse aussi à l'enfant qui est en nous. Il s'adresse aussi à l'enfant que nous avons été et qui a reçu une éducation alors qu'il n'était peut-être pas suffisamment complète ou qui avait des
prendre conscience d'où sont venues toutes ces programmations.
De nos failles, qui ont créé ces programmations, qui font l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Et en tant qu'adulte, eh bien, nous avons le moyen de remédier à tout ça. Mais c'est vrai que c'est à destination des parents, d'enfants et d'adolescents. Voilà, c'est différents thèmes. Aujourd'hui, notre société a drastiquement changé ces dernières années. On croit que nous sommes bien, que nous sommes dans une civilisation moderne, technologique, mais en fait, c'est en train de créer des dégâts considérables, tout ça. Il y a de plus en plus d'enfants qui souffrent de TDAH, de plus en plus de dépression chez les adolescents. Et au cours de ces 5 dernières années, eh bien, le taux de suicide, de tentative de suicide des 10-14 ans a augmenté de 200%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un problème d'encadrement, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de ce que nous transmettons à nos enfants ou plutôt aussi de ce que nous ne leur transmettons plus. Je vous dirais que l'un des principaux problèmes, c'est que nous n'apprenons plus à nos enfants à se créer des souvenirs.
Ouais.
Nos souvenirs, ce sont... nos racines, c'est une fois adulte ce qui nous servira de référent.
Dans notre cœur et non pas uniquement dans notre téléphone.
Exactement. Je préfère, moi, me souvenir d'une balade que j'ai pu faire avec mon grand-père qui m'a raconté une partie de sa vie que de me souvenir de, du moment où j'ai atteint le niveau 25 de mon jeu vidéo préféré. Mais c'est ça le problème. Les enfants sont devant des écrans, ils jouent et ils ne se créent pas de souvenirs. C'est pas vrai. Ils ne se souviendront jamais plus tard. Et de toute façon, ça ne provoquera aucun sentiment, ni aucun sentiment d'expérience non plus. Ce moment où ils ont atteint tel niveau, ou bien ce moment où ils ont eu leur 500e ami sur un réseau social, ou
ben c'est sûr quoi. Que l'année aussi a été particulièrement difficile,
je ne parle pas uniquement de cette année, hein. Vous savez, on assiste à une baisse épouvantable du quotient intellectuel depuis une quarantaine d'années. Ça c'est scientifique, et ça correspond au moment où les écrans ont commencé à se multiplier, où les émissions de télé ont commencé à être diffusées toute la journée, où les premières consoles de jeux sont arrivées, et puis là on arrive aux ordinateurs, puis aux téléphones et aux tablettes. C'est absolument épouvantable. Et puis il faut absolument que les enfants se créent des souvenirs, qu'ils aillent jouer dehors, qu'ils voient leurs amis, qu'ils apprennent à avoir un contact avec l'autre. C'est au contact de l'autre qu'ils vont le mieux saisir qui ils sont. Et c'est la même chose pour nous adultes. On le voit en ce moment, les gens sont mal parce qu'ils ne voient plus leurs proches. Et on n'a plus de référent à l'extérieur. On n'est plus qu'avec soi-même. C'est en étant avec les autres que nous savons le mieux qui nous sommes. Et puis, il y a d'autres sujets également que j'aborde dans le livre, tels que la frustration. Les enfants ne vivent plus la frustration. On n'ose plus leur dire non, parce que tout ce qu'on veut, on l'a maintenant. Il suffit d'un clic. Alors que cette frustration, ce plaisir de se projeter, d'imaginer qu'on l'a, et ce plaisir de recevoir ce qu'on attendait, il n'existe plus. On est dans un système d'acquisition immédiate. On ne s'ennuie plus non plus.
Oui.
Dès qu'on s'ennuie, on sort un écran.
Ben Laurent, nous allons nous ennuyer de vous. Et l'un des conseils que je retiens de votre livre Avance, c'est justement de choisir son entourage. Et nous sommes très heureux de vous avoir eu parmi nous à Au fil du temps.
C'est un plaisir d'être avec vous.
Alors, l'ouvrage s'appelle Avance aux éditions ADA. Et c'était Laurent Debacker. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Au fil du temps, qui est à sa 42e émission, et vous avez accès à l'ensemble de nos émissions sur CanalM, Point Vues et Voix, également en direct le jeudi midi à CKVL et en tout temps sur les plateformes de balado-diffusion comme Spotify, Google Play Music et Apple Balado. Également, je vous donne rendez-vous sur la toute nouvelle page Facebook de l'émission Au fil du temps CanalM.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees, learned of love and ABC, and skinned our hearts and skinned our knees. Goodbye, my friend, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that girls are everywhere, think of me and I'll be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the hills that we climbed were just seasons out of time. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the family. Tried to teach me right from wrong. Too much wine and too much song. Wonder how I got along. Goodbye, Papa, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air,
shell, my little one. You gave me love and helped me find the sun. And every time that I was down, you would always come around and get my feet back on the ground. Goodbye, Michelle, it's hard to die when all the birds are singing in the sky. Now that the spring is in the air, with the flowers everywhere, I wish that we could both be there. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on the beach. We had joy, we had fun, we had seasons in the sun, but the wine and the song, like the seasons, have all gone.
C'était Seasons in the Sun de Terry Jacks, donc les différentes saisons de la vie. Nous avons discuté en première partie avec Laurent de Bacquer de comment créer une vie qui fait qu'au moment de nos funérailles, nos proches auront des choses inspirantes à raconter. Et en ce deuxième partie d'Au fil du temps, nous recevons Caroline Cloutier, qui est thanatologue, directrice marketing et communication à la coopérative funéraire du Grand Montréal. Bonjour Caroline.
Bonjour Chantal. Okay.
Je dois dire d'entrée de jeu, vous êtes en studio avec moi et vous n'avez pas nécessairement le look de l'emploi qu'on s'attend là, d'une personne. Puis peut-être que c'est à tort, on a toujours l'image de les
croque-morts de look et look.
Et là, on a une belle femme blonde, lumineuse devant nous.
Ben, merci beaucoup pour les beaux compliments. Mais c'est vrai qu'on pense souvent que pour faire ce métier-là, il faut être grand, maigre, les cheveux blancs. Et puis, de nos jours, on a beaucoup de jeunes femmes qui font mm-hmm. le métier de thanatologue. Si on va au Collège de Rosemont, on peut constater qu'en technique de thanatologie, majorité de jeunes femmes. Mm-hmm. Alors, le profil de l'emploi a beaucoup changé.
Qu'est-ce qui nous amène justement à vouloir faire ce métier?
Bien, pour ma part, ça m'attirait de pouvoir faire un métier qui venait en aide aux gens. Les gens sont très reconnaissants mm-hmm. du support que tu apportes. Et ça vient, c'est un mélange aussi, la thanatologie, de science et ouais. d'art. Alors ça, c'est quelque chose qui me plaisait également. Et tout le côté protocolaire. Oui. Hein, des funérailles, on marche droit, mm-hmm. les uniformes, tout ça. C'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Alors, voilà.
Et là, on a tous, dans nos vies, assisté à des funérailles, et particulièrement depuis un an, le rapport aux funérailles a beaucoup changé. Donc, je serais curieuse. Mais on continue de naître, on continue de mourir, hein? Ça ne change pas, c'est le cycle de la vie, mais de quelle manière maintenant on peut reconnaître les êtres qui nous quittent et vraiment leur rendre hommage maintenant avec les rassemblements qui sont interdits?
Effectivement, depuis un an, c'est très difficile parce que le nombre de personnes est limité mm-hmm. Au salon funéraire. Donc, on est limité à 25 personnes. Ah. Et c'est 25 personnes fixes. Hein? C'est pas 5 qui partent puis on remplace. Mm-hmm. Là, c'est vraiment un maximum de 25. Donc, c'est difficile, ça, dans une mm-hmm. famille. Il faut choisir qui est là, qui n'est pas là.
Ça peut être extrêmement difficile. Comment savoir qui sont les 25 personnes qui ont été les plus importantes pour cette personne-là?
Il y a même un moment où c'était 10 personnes maximum. Là, c'est vraiment très peu, 10 personnes. Pour venir en aide aux gens, ce mm-hmm. qu'on a fait, nous, très, très rapidement, c'est qu'on a acheté des équipements pour diffuser les funérailles virtuellement. Oui. Donc, au moins, ça permet aux gens à la maison de pouvoir visionner les funérailles. Et puis, on a mis en place du soutien pour mm-hmm. Que les gens en deuil à la maison ne soient pas de se pas esseler. Alors, il y a quelque chose qui manque beaucoup aux familles et elles nous le disent, c'est que les réceptions sont interdites actuellement.
Oui.
On ne peut pas faire un buffet là, puis manger tout le monde ensemble. Et de nos jours, dans nos mœurs québécoises qui ont beaucoup évolué, ben, le rassemblement est très important. On aime manger ensemble parce que nous, on est encore en vie et on est solidaires avec la famille endeuillée. Et là, ça, c'est impossible en période de pandémie.
Je me suis justement toujours demandé le rôle de ce buffet-là après.
Mais c'est se solidariser, absolument. Se solidariser et ne pas laisser la famille endeuillée qui est seule. Et c'est un symbole. Nous, on est en vie.
Et c'est probablement le reflet aussi de tous les repas qu'on a pu partager avec cette personne-là au fil du temps.
C'est certain. Alors, ça manque aux gens. On se croise les doigts pour qu'on puisse de nouveau bientôt, mais on est tous dans le
même... On ne connaît pas l'avenir, mais j'étais curieuse de vous entendre tout de même là, sur l'évolution au fil du temps des funérailles, parce que on a reçu quelques personnes plus âgées qui sont venues au fil du temps puis qui racontaient que des défunts, grand-père, grand-mère, étaient veillés au salon. Donc, je ne sais pas s'il y a un lien même avec le mot « salon funéraire ».
Bien, c'est... pour ma part, moi, ça fait 23 ans déjà que je pratique mon métier, mais j'ai eu la chance et l'opportunité dans ma vie de travailler pendant 3 ans en France, là où les mœurs sont un peu différentes d'ici, et j'ai vu ça, des expositions à la maison. Donc, c'est... Je présume que quand on a un défunt dans la maison pour 2-3 jours, ça doit apprivoiser cette peur-là, la peur des morts, là, quand c'est à la maison. Ici, au Québec, on ne voit jamais ça. On a fait appel à un salon funéraire maintenant parce que ce que l'on veut, c'est que tout se fasse sous un même toit. On veut l'exposition, soit des cendres ou du cercueil, du défunt, et ensuite une célébration. On va de moins en moins à l'église avec un cortège. On veut tout sous le même toit, puis après on veut se solidariser, on veut manger ensemble. Alors, et ça, tout ça dans une seule journée. Alors ça a beaucoup changé parce que autrefois c'était 3 jours. On veillait au moins 2 soirs et puis...
Oui, bien, en fait, j'ai constaté qu'au moment de la naissance ou au moment du décès, c'est la même chose. Les enfants, on pouvait rester à l'hôpital quelques jours avec le bébé. Et là, 24 heures plus tard, on nous retourne à la maison. Donc, c'est plus rapide que ce soit au début ou à la fin.
Je croirais que dans le cas des enfants, des naissances, c'est parce que les hôpitaux sont engorgés et puis on a besoin de la place. Tandis que la maison funéraire, c'est pas une question d'engorgement, c'est une question de changement de mœurs.
Oui.
Tout comme on a opté de plus en plus, les Québécois, à la crémation.
Oui.
Le taux de crémation a augmenté beaucoup. Et avec la pandémie, encore plus, les gens ont choisi la crémation. Et je ne crois pas que dans le futur, on va revenir en arrière. On va revenir à l'époque où les gens achetaient des cercueils.
Mais je pense qu'il y a des nouveaux types aussi. On voit l'inhumation, je pense, avec de l'eau.
L'aquamation, qui est un procédé, différent, où on dissout le corps dans un cylindre rempli d'eau et de potasse et de soude caustique.
J'ai vu aussi incorporer à des bijoux ou même à des toiles.
Oui, bien ça, c'est une petite portion de cendre qui peut... en fait, la toile devient comme un reliquaire. Et dans les bijoux, oui, ça peut être un reliquaire que l'on porte, mais on peut aussi utiliser la cendre, car elle contient du carbone, puis faire un diamant avec. Il y a une multitude d'options qui existent. Puis les inhumations vertes aussi, on peut... qui est très populaire là, de plus en plus chez les Québécois, c'est d'acheter une urne qui sera biodégradable Et puis, ne laissez aucune trace.
Donc, on a vu certaines publicités passer comme ça, de devenir un arbre.
Ouais. Il y a une compagnie espagnole qui a mis au point une urne qui était très intéressante, là, qui devient un arbre. Le souci, c'est qu'en 2019, le 1er janvier, on a eu une nouvelle loi du gouvernement. Après 40 ans, notre loi sur les services funéraires a été mise à jour. Mm-hmm. C'est la loi 66. Et ça mentionne que lorsqu'on enterre des cendres dans une urne, mm-hmm. ça doit être obligatoirement dans un cimetière.
D'accord.
Et c'est pas tous les cimetières qui vont permettre d'enterrer une urne qui va devenir un arbre. Parce que là, on a quand même un paysagement déjà dans un cimetière. Alors, ça ne fonctionne pas du tout. C'est interdit d'enterrer une urne
D'accord.
ailleurs que dans un cimetière. Donc, ça se trouve que cette urne-là, finalement, pour la loi québécoise, elle n'est pas populaire du tout.
Caroline, on va entendre une pièce musicale de circonstance que vous connaissez certainement, Les funérailles de Georges Brassens.
Ah oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, c'est bien.
Oui, les funérailles d'antan, et on revient tout de suite après pour parler des hommages.
Jadis, les parents des morts vous mettaient dans le bain. De bonne grâce, ils en faisaient profiter les copains. Il y a un mort à la maison si le cœur vous en dit. Venez le pleurer avec nous sur le coup de midi. Mais les vivants aujourd'hui ne sont plus si généreux. Quand ils possèdent un mort, ils le gardent pour eux. C'est la raison pour laquelle depuis quelques années, des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Des tas d'enterrements vous passent sous le nez. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Maintenant les corbillards à tombeau grand ouvert emportent les trépassés jusqu'au diable Vauvert. Les malheureux n'ont même plus le plaisir enfantin de voir leurs héritiers marrons marcher dans le crottin. L'autre semaine, des salauds à 140 à l'heure vers un cimetière minable emportait un des leurs. Quand sur un arbre en bois dur ils se sont aplatis, on s'aperçut que le mort avait fait des petits. On s'aperçut que le mort avait fait des petits. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les petits macabés ronds et prospères quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes funèbres, on ne les reverra plus. Et c'est bien attristant, les belles pompes funèbres de nos 20 ans. Plutôt que d'avoir des obsèques manquant de fioritures, j'aimerais mieux tout qu'on te fait passer de sépulture. J'aimerais mieux mourir dans l'eau, dans le feu, n'importe où. Et même à la grande rigueur, ne pas mourir du tout. Oh, que renaisse le temps des morts bouffis d'orgueil, l'époque des matu vu dans mon joli cercueil. Ou quitte à tout dépenser jusqu'au dernier écu, les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Les gens avaient à cœur de mourir plus haut que leur cul. Mais où sont les funérailles d'antan? Les petits corbillards de nos grands-pères qui suivaient la route en cahotant. Les
petit Maccabée, 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 ronze prospère, quand les héritiers étaient contents. Aux fossoyeurs, aux croque-morts, aux curés, aux chevaux, même ils payaient un verre. Elles sont révolues, elles ont fait leur temps. Les belles pompes, pompes, pompes funèbres, on ne les reverra plus, et c'est bien attristant. Les belles pompes funèbres de nos 20 ans.
C'était Les funérailles de Georges Brassens. Nous sommes avec Caroline Cloutier de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Et Georges Brassens nous dit « Elles sont révolues, les funérailles d'antan ». Donc, qu'est-ce qui est bien ou moins bien, vous diriez, peut-être des funérailles d'aujourd'hui par rapport à avant?
Ben, il faut s'adapter à notre temps. Donc, je peux pas dire que c'est mieux. Ou je présume, et j'ai souvent entendu dire que quand les funérailles, ça durait 3 jours,
oui,
et qu'on recevait à la maison, mm-hmm, c'était très dur pour la famille. Il fallait nourrir tout ce monde-là. Mm-hmm. C'est pas tout le monde qui avait tout le temps de la peine. Fait que ça finissait que les hommes jouaient aux cartes puis ils prenaient, mm-hmm, un coup. Je pense pas que c'était vraiment mieux dans cette situation. D'un autre côté, aujourd'hui, c'est peut-être un peu rapide, mm-hmm, mais par contre, les gens vont faire les funérailles souvent beaucoup plus tard. Donc, ils prennent leur temps de préparer très bien les choses et de personnaliser, mm-hmm, au maximum. Donc, ça va être par un montage vidéo, par, mm-hmm, exemple. On va rassembler des photos. On va faire un signet souvenir. On prend le temps de vraiment bien faire ces choses-là. Ça, de nos jours, ça, là, c'est très, très important.
Je pense que plus de commémoration aussi, de prendre le temps, comme vous dites, des 1 an, des 2 ans, des 3 ans, et peut-être aussi avec les plateformes numériques, d'avoir un endroit où s'exprimer ou de pouvoir, justement, on voit des pages Facebook, par exemple, qui sont transférées en pages, oui, hommage.
Oui, des pages de commémoration. Mm-hmm. Puis... nous, on a créé là, un espace famille où les gens peuvent aller déposer. C'est une plateforme là, mm-hmm, sur Internet. Les gens vont déposer leurs photos. Souvent, ils vont faire un livre souvenir, oui, avec ça. Tout le volet commémoratif est très, très important. Mais on s'est pris en main, mm-hmm, nous, comme peuple, puis les maisons funéraires, on est venus en aide, oui, pour ça. Parce qu'on a mis de côté la religion.
Absolument.
Avant, c'était l'Église.
La formule
qui...
était faite.
Oui. Mm-hmm. Et là, on est tombé dans un néant. Et on a vu une, oui, certaine époque où les gens se sont tournés vers la crémation. Mm-hmm. Pas de funérailles, pas rien. Et là,
ça manquait.
Et là, quand il y a eu un autre décès dans la famille, ils n'ont pas voulu répéter cette, mm-hmm, formule-là. Et là, on est vraiment dans une ère où est-ce qu'il y a beaucoup de personnalisation, beaucoup de commémoration. C'est ça.
On parlait un peu pendant la pièce musicale. Quand on veille le mort au salon, on est un enfant, on a peut-être plus un regard, une proximité avec la mort. De nos jours, on voit ça un peu de loin, le mort. On est moins habitué. Donc, par exemple, pour un jeune qui perd ses grands-parents... c'est quoi son rapport à la mort, d'arriver à faire le deuil quand il ne voit pas, il n'est pas aussi proche, il n'est pas habitué à côtoyer la mort autant?
Bien, ce que je conseille, c'est que les parents, ils amènent les enfants, mm-hmm, au salon funéraire, mais pour une courte période, mm-hmm, parce qu'ils vont se fatiguer, ils vont se tanner. L'idéal, c'est toujours de prévoir, de demander à un voisin ou un ami ou une gardienne de récupérer les enfants. Parce que les parents, eux, ils vont être occupés à recevoir les condoléances des, oui, gens, tout ça. Ils ne peuvent pas avoir un œil toujours sur les enfants. Et on voit à l'occasion des enfants vraiment laissés à eux-mêmes. Là. Alors, je crois que c'est bien de les amener pour quelques minutes pour qu'ils constatent ce qui se passe. Mm-hmm. Donc, et de dire les vraies choses... Oui. Dans des termes qui vont être vraiment tangibles. Alors, de dire, ben, tu vois, grand-papa ou grand-maman, ne respire plus, mm-hmm. ne voit plus, son cœur ne bat plus. Puis aller vraiment avec les sens.
Ouais.
Si tu lui touches, il ne le sent plus. Et là, ça va être vraiment tangible. Parce que si on dit à l'enfant, ben oui, c'est ça, grand-papa est parti dans les nuages, mm-hmm. grand-papa dort, ben on peut se retrouver avec un enfant après ça qui va avoir des troubles.
Peur de s'endormir, par exemple.
Penser que vraiment c'est, la personne est partie dans les nuages. On dit les vraies choses. Puis pour s'aider, il y a des lectures. Mm-hmm. On a un centre de documentation D'accord. sur le site web.
Sur toutes sortes de lectures sur le deuil.
Oui, puis comment expliquer la mort aux enfants. Il y a vraiment, on a un dépliant là, à propos...
Parce que c'est très court maintenant. On disait justement, peu de temps à la naissance, peu de temps à la mort. Il faudrait quoi qu'en 3 jours, les congés, par exemple, au travail, c'est quoi? C'est quelques jours seulement?
Ça dépend de l'employeur, mm-hmm. là, puis les normes du travail, mais puis du lien de parenté.
Oui.
Mais c'est vrai que c'est pas très long, les congés. Puis si c'est 3 jours, on s'attend que la personne revienne au travail puis que... est guérie. Mais le deuil, c'est pas une maladie.
Mm-hmm.
Et puis, ça prend un certain temps. Souvent, ça peut prendre 2 ans. Et même pour certains, un peu plus. Il y a des étapes à passer. Hein? On a le choc, mm-hmm. on a le déni. Il faut que ça se vive.
Caroline, en terminant, ce serait quoi la meilleure manière de rendre hommage à quelqu'un qui est parti? Qui est décédé. Comment rendre hommage à ce qu'elle nous a, elle ou il nous a transmis de son vivant?
Bien, c'est une excellente question, mais c'est ça dépend de chaque personne. Mm-hmm. Hein? Moi, je pense qu'on doit toujours aller avec les intérêts de la personne. C'était quoi ses hobbies? C'est quoi ses mm-hmm. loisirs? Qu'est-ce qu'il apprécierait le plus?
Que ce soit de perpétuer une œuvre ou une cause que cette personne-là soutenait, ou même des fois juste de refaire sa recette, ça crée le lien.
Oui, c'est très, très varié et variable. Je pense que toutes les idées sont bonnes. Mm. Ça peut être au travers d'un texte, d'une chanson, d'un poème, mais ça peut être en plantant un arbre ou en faisant un don à une fondation.
Des manières de garder la personne qu'on aimait bien vivante.
Oui, absolument.
Merci beaucoup, Caroline Cloutier, de nous avoir parlé de l'évolution des funérailles au fil du temps.
Ça m'a fait plaisir.
Alors, c'est ainsi que se termine notre 42e émission d'Au fil du temps. Un grand merci à nos invités, Laurent Debacker, coach de vie, thérapeute en PNL et qui nous parlait de son livre « Avance », publié chez ADA, et Caroline qui est en studio maintenant avec nous. Caroline Cloutier, thanatologue, directrice marketing et communication de la coopérative funéraire du Grand Montréal. Merci à notre fabuleuse équipe d'Au fil du temps, Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, nous parlons de l'évolution des prénoms avec Laurence Charton, sociodémographe à l'Institut national de la recherche scientifique, l'INRS, et Valérie Harvey, sociologue et auteur qu'on a reçu très récemment, va nous parler du Japon. Elle va nous faire voyager, mais un petit peu une perspective sur les générations au Japon. Alors, merci beaucoup. On vous retrouve très prochainement au fil du temps.